populaire des États-Unis de 1492 à nos jours.
Chapitre 1. Christophe Colomb, les Indiens et le progrès de l'humanité.
Quatrième partie.
Des monts Adirondacks jusqu'au Grand Lac, sur le territoire actuel de la Pennsylvanie et du nord de l'État de New York, vivait le plus puissant groupe de population du nord-est américain, la Confédération iroquoise, qui réunissait les Mohawks, le peuple du silex, les Oneidas, le peuple de la pierre, les Onondagas, le peuple de la montagne, les Cayugas, le peuple de la terre, et les Senecas, le peuple de la grande colline. Des milliers de gens unis par une langue commune, l'Iroquois. Dans la vision du chef Mohawk, Hiawatha, le légendaire Dekanawida, s'adressait aux Iroquois en ces termes. « Nous sommes unis, tous ensemble, par le grand cercle que forment nos mains. Un cercle si fort que si un arbre venait à tomber dessus, il ne tremblerait ni ne se romprait. Ainsi, notre peuple et nos petits-enfants resteront dans le cercle en parfaite sécurité, dans la paix et le bonheur. » Dans les villages iroquois, la terre était détenue et travaillée en commun. La chasse se faisait en groupe et les prises étaient partagées entre les membres du village. Les habitations étaient considérées comme des propriétés communes et abritaient plusieurs familles. La notion de propriété privée des terres et des habitations était parfaitement étrangère aux Iroquois. Un père jésuite français qui les rencontra en 1650 écrivait « Nul besoin d'hospice chez eux car ils ne connaissent pas plus la mendicité que la pauvreté. Leur gentillesse, leur humanité et leur courtoisie les rendent non seulement libéraux en ce qui concerne leurs possessions, mais font qu'ils ne possèdent pratiquement rien qui n'appartienne également aux autres. Les femmes jouaient un rôle important et avaient un statut respecté dans la société iroquoise. En effet, le lignage s'organisait autour de ses membres féminins dont les maris venaient rejoindre la famille. Chaque famille élargie vivait dans la grande maison et lorsqu'une femme désirait se séparer de son mari, elle déposait simplement les affaires de ce dernier devant sa porte. Les familles formaient des clans et une douzaine ou plus de clans pouvaient former un village. Les femmes les plus âgées du village désignaient les hommes habilités à représenter le clan au conseil de village et de tribu. Elle désignait également les 49 chefs qui composaient le Grand Conseil de la Confédération des Cinq Nations iroquoises. Elles assistaient aux réunions de clans, se tenaient derrière le cercle formé par les hommes qui discutaient et votaient les décisions. Si ces derniers allaient dans un sens trop éloigné de celui qu'elles souhaitaient, elles pouvaient les démettre et les remplacer. Les femmes surveillaient également les récoltes et s'occupaient de l'administration générale du village, tant que les hommes étaient à la chasse ou à la pêche. En outre, comme elles fournissaient les mocassins et la nourriture pour les expéditions guerrières, elles avaient également un certain contrôle sur les affaires militaires. Comme le fait remarquer Gary B. Nash dans son fascinant ouvrage sur les premières années de l'Amérique, Red, Blacks and White, le pouvoir était donc bien l'affaire des deux sexes et l'idée européenne d'une domination masculine et d'une suggestion féminine en toutes choses était remarquablement étrangère à la société iroquoise. On enseignait aux enfants iroquois aussi bien l'héritage culturel de leur peuple et la nécessaire solidarité entre tribus que le devoir de ne pas plier devant un quelconque abus d'autorité. On leur enseignait aussi l'égalité des statuts et le partage des possessions. Les Iroquois ne punissaient jamais cruellement leurs enfants. Le sevrage et la toilette n'étaient pas imposés autoritairement, et les enfants étaient autorisés à franchir graduellement et de façon autonome ces étapes de leurs éducations. Tout cela, bien sûr, jurait parfaitement avec les valeurs européennes que les premiers colons apportèrent avec eux. Une société divisée en pauvres et riches, contrôlée par les prêtres, par les gouverneurs et par les hommes en ce qui concernait la vie familiale. Par exemple, le pasteur de la colonie des Pères Pèlerins, John Robinson, donnait à ses paroissiens les conseils suivants sur l'éducation des enfants. Assurément, il y a en chaque enfant une obstination, une intrépidité d'esprit, fruit d'une fierté naturelle qu'il faut absolument rabattre et briser. Ainsi, les fondements de l'éducation étant assimilés, avec humilité et docilité, d'autres vertus pourront venir, en leur temps, s'y adjoindre. Nulle loi ni ordonnance, ni shérif, ni gendarme, ni juge, ni jury, ni cour de justice, ni prison. Tout ce qui compose l'appareil autoritaire des sociétés européennes. Rien de tout cela n'existait dans les forêts du nord-est américain avant l'arrivée des Européens. Pourtant, les limites du comportement acceptable y étaient clairement déterminées. Bien que mettant en avant la notion d'individu autonome, les Iroquois n'en avaient pas moins un sens aigu du bien et du mal. Celui qui volait de la nourriture ou se conduisait lâchement au combat était couvert de honte par son peuple et mis à l'écart de la communauté jusqu'à ce qu'il eût expié sa faute par ses actes et apporté la preuve, à la plus grande satisfaction de ses congénères, qu'il s'était moralement purifié de lui-même. En 1635, les Indiens du Maryland firent la réponse suivante au gouverneur qui avait exigé que, au cas où l'un d'entre eux assassinerait un Anglais, le coupable lui fût livré afin d'en répondre devant les lois anglaises. C'est la coutume chez nous, les Indiens, lorsqu'un accident pareil se produit, de nous efforcer de racheter la vie d'un homme aussi vil en offrant 100 brassées de perles. Aussi, puisque vous êtes étranger ici et que vous êtes venu dans notre pays, vous devriez vous conformer à nos coutumes plutôt que de nous imposer les vôtres. À l'évidence, Colomb et ses successeurs n'arrivaient pas dans des régions sauvages et inhabitées, mais bien dans un monde aussi densément peuplé par endroits que l'Europe elle-même, avec une culture complexe et des rapports humains plus égalitaires qu'en Europe. Quant aux liens qui unissaient hommes, femmes, enfants et environnement naturel, ils étaient sans doute plus harmonieux que partout ailleurs dans le monde. Ces peuples ignoraient certes l'écriture, mais possédaient leurs propres règles, leur propre poésie, leur propre histoire, conservées dans les mémoires et transmises sur un mode oral bien plus complexe qu'en Europe, puisque chant, danse et spectacle cérémoniel s'y mêlaient. Ils prêtaient une grande attention au développement personnel, à la force de volonté, à l'indépendance et à la souplesse d'esprit, à la passion et aux liens qui les unissaient à la nature. Peut-être jugera-t-on qu'il s'agit là d'une mythologie romantique. Pourtant, les témoignages des voyageurs européens des 16, 17 et 18e siècles rassemblés dernièrement par un spécialiste américain des cultures indiennes, William Brandon, viennent, dans une large mesure, conforter ce mythe. Même si l'on admet le caractère imparfait des mythes, cela suffit à mettre en question, pour cette époque et pour la nôtre, la justification par le progrès humain de l'extermination des peuples, ainsi que les récits historiques qui ne tiennent compte que du point de vue des conquérants et des grands personnages de la civilisation occidentale. Y avait-il effectivement 3 millions d'Indiens, ou moins d'un million selon certains historiens, ou 8 millions selon certains autres? Pourtant, à en croire les manuels d'histoire fournis aux élèves américains, tout commence par une épopée héroïque.
nulle mention des bains de sang. Et nous célébrons, aujourd'hui encore, le Columbus Day. Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours.
Par Howard Zinn.